Alors, première émission inaugurale des Assises du journalisme, mais oui, pour le réseau Campus France. Et dans notre beau salon de la Fabrique, nous recevons nos premiers invités. Nous recevons l'équipe de Salon de Pauvres de Radio Béton. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, on est très content que vous soyez avec nous. Salon de Pauvres sur le Salon Campus, ça tombe plutôt bien. Alors peut-être qu'on peut faire déjà un tour de table, mesdames et messieurs. Est-ce que vous voulez chacun votre tour vous présenter ?
Alors Sandrine Marché, donc moi je travaille au conseil départemental et j'accompagne en effet l'émission de Salon de Pauvres, voilà, depuis 2 ans maintenant.
Ah, bonjour, donc je m'appelle Marie-Thérèse et je suis dès le démarrage de l'émission et du groupe Stigmatisation. Donc dès le démarrage avec deux autres.
Alors Guylaine, moi je participe à l'émission en tant que je fais la technique dans le bocal à Radio Béton et j'ai une petite chronique qui s'intitule Les idées fausses.
Ingrid, alors moi je m'occupe des statistiques de notre groupe Facebook qui s'appelle Bénéficiaires du RSA des gens comme les autres et de la pause musicale.
Eh bien Alain Gachet, moi je suis un peu à l'origine de tout ça, je fais partie des meubles à Radio Béton, ça facilitait les choses pour devancer les futures questions, pourquoi on a fait ça et pourquoi on a fait ça sur Radio Béton. D'abord parce que c'était ça qu'on avait à disposition le plus facilement, le plus rapidement possible. Et voilà, et en plus je m'occupe de divers groupes. Marie-Thérèse a fait une allusion tout à l'heure à ce qu'on appelle le groupe Stigmatisation. Alors ça mérite une petite explication parce
Mais
que
oui.
Sinon vous allez rien comprendre. Il se trouve que donc le conseil départemental a impulsé la création de ce qu'ils appellent des groupes ressources parce qu'ils ont trouvé, ils n'ont pas trouvé de définition un peu plus sexy. Bah,
en fait, juste pour compléter, c'est dans le cadre de la loi RSA,
voilà.
C'est l'État qui demandait au département en fait de créer des groupes où les citoyens pouvaient s'exprimer, au démarrage sur les actions en lien avec l'insertion du département, sur donc tout ce qui était plan départemental d'insertion, le plan territorial d'insertion, et donc en fait les départements pouvaient en effet s'approprier cette mission et demander aux citoyens plus particulièrement bénéficiaires du RSA, parce que c'est dans le cadre de la loi RSA de 2008, de pouvoir s'exprimer au travers de ces groupes ressources.
Voilà.
Et selon les départements, ils se sont a priori appropriés différemment. Voilà.
Voilà. Et en Indre-et-Loire, il y en a combien ?
Alors, on est 6 groupes ressources sur l'Indre-et-Loire. Donc, on va les citer quand même pour hommage. Donc, Amboise, Chinon, Loches, Jouy-les-Tours, donc Tour-Mam, juste à côté, à la MDS MAM, et puis donc Tour-Nord.
Voilà. Et donc, on se réunit et on s'est très vite aperçu qu'il y avait un thème qui revenait tout le temps. C'était qu'on se sentait stigmatisé, montré du doigt, affublé de qualificatifs joyeux dans le genre cassos, feignant, assisté, etc., etc. Vous avez tous entendu ça, que ce soit à la radio, à la télé, mais ça va jusqu'à nos amis, jusqu'à dans notre propre famille, et c'est un poids énorme. Et on s'est dit... on va essayer de faire quelque chose contre cette stigmatisation. Et c'est pour ça qu'on a créé un sous-groupe auquel donc peuvent adhérer tous les gens qui font partie d'un des groupes ressources, qu'ils soient de Loches, d'Amboise ou de Tours, pour trouver des moyens de nous faire entendre. Pour lutter contre cette stigmatisation en disant non, on n'est pas des martiens, on n'est pas des marginaux, on va y revenir un peu plus tard parce que là il y a un truc au niveau des assises du journalisme qui passe pas, mais alors qui passe pas, on l'a en travers de la gorge parce que merde, on n'est pas des aliens, on est des gens comme les autres, c'est le titre de notre page Facebook.
Groupe Facebook.
On est des gens comme les autres, qu'on ont eu à un moment dans leur vie ce qu'on appelle pudiquement un accident de la vie. Alors ça peut être le chaume dû, ça peut être une rupture, ça peut être un deuil, ça peut être plein de choses. Et on se retrouve avec le RSA, c'est-à-dire avec grosso modo 600 euros par mois pour vivre. Voilà, on est dans cette situation-là, on ne l'a pas choisi. Un marginal, c'est quelqu'un, moi j'estime que j'en ai été un, donc je peux en parler sans stigmatisation justement. C'est quelqu'un qui a choisi d'être en dehors de la société pour des raisons qui lui appartiennent.
Ou pas, on en a parlé, hein. C'est-à-dire que vous, c'était de la marginalité, mais par choix.
Par choix complet.
Il y a des gens, en effet, qui se retrouvent...
Pour pas jouer le jeu d'un système que je critiquais.
Voilà, mais il y a des gens qui se retrouvent à la rue et qui n'ont pas choisi d'être à la rue.
Voilà, c'est
là, ils deviennent marginaux, mais pas par choix.
C'est autre chose.
Oui, on peut penser aux gens qui ont des pathologies psychiatriques,
aussi.
Par exemple.
Voilà, oui, aussi.
Voilà. Mais nous, on est des gens qui sont réunis ici pour une seule raison, c'est que on est allocataire du RSA. Point. Le reste, après, c'est un autre sujet. On peut en parler, mais c'est pas ça qui nous définit.
Oui, et ça, devenir citoyen. Au sein de la société ordinaire et de bien montrer que d'abord les personnes qui sont allocataires de minima sociaux sont assez nombreuses. En plus, on peut joindre à leur nombre celui des travailleurs pauvres qui sont très nombreux aussi. On voit les manifestations des Gilets jaunes qui montrent bien qu'en fait il y a un nombre important de personnes. On est entre 9 et 13 millions de personnes à vivre sous le seuil de pauvreté. Donc ça n'est pas marginal, c'est un réel problème de société. Et le but de l'émission que Alain nous a proposé, qu'il a créé et dont il est l'animateur, c'est justement de s'adresser à tout le monde, de traiter des sujets qui intéressent les allocataires, toutes personnes, et de trouver aussi des astuces qui vont permettre aux gens de se rencontrer, de participer à de la vie culturelle, d'avoir des renseignements qu'ils ne trouveront pas forcément ailleurs, et de se dire, nous, on n'est pas à part, on n'est pas à la marge, on fait partie des citoyens comme tout le monde. Donc voilà un petit peu le but de l'émission.
On a démarré fort, là. Je trouve qu'on vous laisse même pas parler.
Mais c'est très bien. Moi, je parle assez souvent à la radio, donc l'idée, c'est aussi que vous puissiez venir dire ce que vous avez à dire. Et alors, je me tourne aussi vers vous, mesdames. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu plus en détail ce que vous faites pour cette émission ?
Alors, moi, je donne des nouvelles de tous les groupes, ce qui est fait dans les groupes. Donc,
Ça veut dire que vous allez à la chasse aux infos, vous allez rencontrer les gens, vous les appelez pour avoir...
Oui, voilà, j'en vois, voilà. Donc, il y en a qui nous répondent, d'autres qui oublient de nous renvoyer des nouvelles. Mais bon, on a quand même au moins trois groupes que les nouvelles reviennent facilement. Donc deux parce qu'on est... moins trois parce qu'on est dans le groupe, donc c'est plus facile. Mais les autres, c'est selon ce qu'ils ont envie.
C'est-à-dire que c'est très fluctuant le nombre de gens qui sont... parce que par définition, la situation de quelqu'un qui est au RSA, c'est une situation qui est destinée à être provisoire.
Espérons-le
pour eux, oui. Et donc, parfois, il y a des groupes qui se retrouvent avec plus personne ou avec une personne. Et puis, deux mois après, il y en a 3-4 qui arrivent. C'est très, très, très fluctuant.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est suivi, en fait, les groupes écoutent, viennent voir, si vous avez annoncé leurs nouvelles, est-ce que ça leur fait plaisir aussi d'être intégrés dans cette émission ?
Bon, pour les groupes qui nous donnent facilement, donc il n'y a pas de souci, mais les autres, on ne sait pas trop. Et c'est bien dommage parce qu'on aimerait bien avoir plus de nouvelles d'eux.
On a un critère de jugement, justement, ça c'est Ingrid qui va nous le dire, parce que tous les mois, dans l'émission, le Salon de Pauvre, elle fait une stat... sur la page Facebook. C'est le seul indicateur qu'on a, mais je pense qu'il est quand même assez fiable. Donc, est-ce que tu as les derniers chiffres de mémoire
Oui, ils datent d'hier. Donc, en ce moment, on est 207 membres sur le groupe Facebook. Et le groupe, c'est un groupe public, donc tout le monde peut venir. On n'est pas obligé d'être au RSA. Après, voilà, je rappelle quand même, j'en ai parlé hier sur Radio Béton, mais le groupe, il n'y a pas de professionnel de la CAF. Donc, les gens, des fois, ils arrivent avec leurs problèmes. Ils ont un problème avec la CAF, ils attendent une réponse. Le groupe, il n'est pas fait pour ça. On est au RSA, bon, il y a certains professionnels comme Sandrine qui est sur le groupe, mais faut pas attendre une réponse de la CAF sur notre groupe parce que on n'est pas là pour ça. Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que le groupe stigmatisation, donc c'est un groupe départemental, c'est pour ça que en ayant des membres des autres groupes ressources, Marie-Thérèse arrive à avoir des infos. Là, sur le groupe stigmatisation, il y a des gens du groupe Tournoir, du groupe d'Amboise et du groupe de MAM. Et finalement, les groupes Jouer les Tours, Loche, Chinon, répondent pas à ces appels par mail. Donc c'est vrai que c'est dur d'avoir des nouvelles, ou alors c'est vraiment en dernier carat qui donne un petit...
Ceux qui sont un peu éloignés.
Voilà. Surtout Jouer les Tours, ils sont très éloignés. Ils sont...
voilà. Non, c'est les téléphones satellites, ça marche assez mal. C'est des régions reculées. C'est un problème, quoi. Faut des visas,
Voilà, et moi je voulais répondre à une question que vous ne nous avez pas posée, mais je vais y répondre quand même.
Vous avez raison.
C'est pourquoi on s'appelle Salon de Pauvres.
Ah, j'ai pensé Salon de Pauvres.
Voilà, et bien Salon de Pauvres, dans la traversée de Paris, quand Jean Gabin le dit, on a joué le jeu du salon, parce que le salon, on est au RSA, ouais. On est vautré dans un salon à regarder la télé et à boire de la bière. Voilà, la preuve aujourd'hui, on est aussi dans un salon.
Là,
et
du coup, merci Radio Campus, on a l'impression une fois de plus de vivre au-dessus de
nos moyens. On est à la maison.
Elle est bienvenue.
Voilà, et du coup, on a fait jouer justement parce que quand on le dit, les gens ne savent jamais si on a dit salon ou salaud. Et c'est quand ils le lisent, ils font « Ah, salaud, mais pourquoi salon ?» Et du coup, salon, parce que... on est au RSA, on est des feignasses, on est vautrés dans un canapé, à boire de la bière toute la journée et regarder la télé. Donc,
on assume. D'ailleurs, vous pouvez venir nous payer une bière, il n'y a pas de problème.
Alors, ou du thé ou du café.
Oui.
Voilà, donc on ne laissera rien aux fainéants, n'est-ce pas ? Vous avez fait un projet radio pour travailler sur tous ces stigmates.
Je voulais ajouter à ce que disait Ingrid, c'est que effectivement la page Facebook n'est pas là pour répondre aux questions, mais on peut orienter les gens vers les MDS, vers la CAF, etc., pour qu'ils trouvent les bonnes réponses auprès des professionnels. Mais dans l'émission, par exemple, la petite rubrique Les idées fausses que j'anime, c'est une rubrique qui vise à traiter de sujets qui intéressent tous les allocataires des minima sociaux et même les citoyens en général, qui éprouvent des difficultés à cause de la stigmatisation, à cause de difficultés de non-recours aux droits, etc., etc. Et qui traitent de sujets, notamment, il y en a eu un où on a eu beaucoup de témoignages et de réponses, c'était celui sur comment bénéficier, lorsqu'on est allocataire du RSA, bénéficier de la CMU et se faire accepter dans un cabinet médical. Beaucoup de personnes ont été l'objet de stigmatisation, justement de refus de soins, de refus d'être pris en charge en fait par un médecin ou un spécialiste du fait que la personne est à la CMU. Donc là aussi il y a quand même des enjeux citoyens à défendre et on essaie de travailler sur ce sujet.
Guylaine, on peut préciser d'ailleurs que les refus de soins pour raison d'appartenance à la CMU sont totalement illégaux. Et oui, que les médecins qui pratiquent ce genre de saloperie se sont fait retoquer par le Conseil de l'Ordre déjà. Donc, si vous êtes victime de ce genre de choses, ne vous laissez pas faire. Et surtout, parlez-en aux professionnels qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pas pour vous fliquer. Parce que, justement, grâce à tout ça, avec l'aide des professionnels, on va pouvoir faire cesser ce genre de pratique.
Oui, on va pouvoir faire évoluer les choses. Et notamment, en fait, les personnes qui sont victimes de ce genre de stigmatisation, ou sur d'autres sujets, mais la santé c'est quand même essentiel, peuvent se tourner vers les assistantes sociales du conseil départemental, etc. Faire remonter les informations de façon que ces médecins soient quand même mis en cause et qu'on leur rappelle que le serment d'Hippocrate n'est pas un vain mot, normalement.
Mais pensez-vous qu'en fait que ce groupe interne permette aussi à certaines personnes qui n'oseraient pas forcément en fait prendre la parole, faire valoir leurs droits, que c'est peut-être un endroit où ils se disent on est un peu en sécurité, on est avec des gens qui peuvent comprendre et du coup peut-être que c'est plus facile pour eux de s'exprimer là.
Alors tout à fait. Et alors à un certain moment, on avait commencé à mettre en place avec la MDS MAM une permanence d'accueil et d'écoute où on recevait, parce que les CSP, enfin les assistantes sociales, ont énormément de personnes à recevoir et n'ont pas forcément le temps de tout donner comme explication, etc. Et on était là un petit peu en plus pour accueillir les gens, pour leur parler en direct, ce qui n'est pas d'inquiétude, s'ils avaient des difficultés qu'ils n'avaient pas osé dire à un professionnel du département, etc. Oui, ça peut être... Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'on n'avait pas les moyens de continuer, etc. Ça demandait beaucoup de temps et autres, mais l'idée est un peu celle-là. Et dans l'émission, les gens peuvent nous parler sur la page Facebook, sur le compte Twitter, etc.
Oui, parce que nous avons un compte Twitter donc qui s'appelle Salon de Pauvre, une adresse mail salondepauvre@gmail.com et une chaîne YouTube où on rediffuse l'émission sans la pause musicale pour ne pas avoir des problèmes.
Allez, on leur file un scoop là. Et bientôt un blog.
Un blog.
Ouais. Cet après-midi, on travaille sur la création d'un blog.
Et la chaîne YouTube, donc, c'est Salon de Pauvres. Voilà. Par contre, juste pour rappeler, parce que Guylaine parlait des MDS, CSP, alors je vais redire quand même les sigles parce que pour que ça parle à tout le monde. Donc MDS, c'est Maison Départementale de la Solidarité. Donc c'est où on trouve, c'est les locaux du Conseil Départemental, en effet, où on trouve les assistantes sociales et tous les autres corps de métier des travailleurs sociaux. Donc il y en a 6 sur le département. Elles sont répertoriées sur la page internet du Conseil Départemental. Donc c'est conseildépartemental.fr, conseildépartemental37.fr. Voilà. Et puis donc pour les CSP, en effet Guylaine parlait des CSP, donc en fait moi ma profession actuellement c'est conseillère socio-professionnelle, donc voilà le sigle c'est CSP et je suis assistante sociale de formation. Voilà. Donc en fait on est une vingtaine de CSP sur le département et entre autres on est six groupes ressources, donc au moins 6 animateurs CSP sur les groupes ressources et voire un responsable de pôle, donc du pôle insertion parce qu'on est organisé par pôle qui des fois accompagne, voilà. Donc c'est au niveau de l'organisation départementale. Et donc par rapport au groupe ressources en interne au conseil départemental, il y a une conférence départementale des groupes ressources une fois par an. Là devrait avoir lieu en mai normalement, on attend la date, voilà, en exclusivité. Et donc où sont présents nos élus du département qui tiennent à être présents. Donc entre autres hier on a reçu Monsieur Vincent Louot, conseiller départemental chargé du RSA et de l'insertion. Qui sera aussi présent à la conférence départementale et notre président du conseil départemental, Jean-Gérard Pommier, normalement devrait être aussi présent, ainsi que notre directeur départemental de l'insertion, M. Bourdet, donc directeur de l'insertion de l'habitat et du logement, puisqu'il a repris 2 directions en charge récemment.
Voilà, en fait, tout le monde nous aime, quoi.
La chance.
On est reconnus au conseil départemental. Hein,
c'est vrai que cette conférence dure une journée quand même, hein, donc le département quand même tient à cette rencontre annuel, hein, parce que aussi les personnes sur les groupes ressources ont souhaité la maintenir chaque année, où c'est vraiment un lieu d'expression et de partage avec les élus. Le matin, c'est plus et de rencontres entre les groupes ressources. Ça, c'est très important parce qu'on parle de tous nos projets sur l'année, de tous les travaux qui ont été faits. Les personnes ça leur permet de se rencontrer, en effet, de rencontrer aussi les professionnels en charge qui les accompagnent. Et donc, le matin, donc, elle est constituée plutôt d'ateliers où, en effet, on va être plutôt sur des échanges entre les personnes et sur les projets travaillés, sur ce qui va, ce qui ne va pas, les progrès à faire, etc. Et l'après-midi, c'est plus une restitution aux élus. Alors, en effet, comme je le citais, Monsieur Louot sera présent, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, Jean-Gérard Pommier, Monsieur Bourdet, le directeur de l'insertion, mais aussi d'autres élus, conseillers départementaux qui tiennent à être présents, comme Madame Dupuis et d'autres, hein, voilà, le conseiller départemental du canton de Vouvray, j'ai plus son nom en tête, mais voilà. Donc, il y en a un certain nombre qui souhaitent être présents aussi, voilà, pour écouter, échanger. Et on partage le repas du midi avec les élus qui sont présents aussi et qui souhaitent être dans des échanges spontanés pour vraiment permettre aux personnes aussi de s'adresser à eux directement sans rendez-vous sur des rendez-vous plus officiels en général, quoi.
Voilà, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir des responsables à l'échelon national qui vont venir.
On peut dire que récemment il y a un plan pauvreté qui a été mis en place par le gouvernement. Oui. Et le département d'Indre-et-Loire est pilote dans ce domaine.
Tout à fait.
Et Madame Dubos, donc secrétaire d'État chargée de cette cette question, est venue nous rencontrer. Moi, je lui ai passé effectivement un petit document que j'avais rédigé. Enfin, il y avait plusieurs.
Tu lui as passé la main dans le dos ?
Non, pas du tout.
Alain.
Mais c'est donc et en fait, on a eu un échange avec elle d'environ trois quarts d'heure, alors que ça ne devait durer que 10 minutes. Donc, il y a eu. On voit que la question intéresse. Forcément, c'est bien parce qu'on n'est pas marginaux, parce que ce sont des questions de fond qui tiennent à l'emploi, à la société, à la vie d'une manière générale. Alors, autre chose intéressante aussi, c'est que nous ne nous contentons pas à Tours, puisque depuis peu, nous avons des relations avec un groupe d'allocataires de la ville de Tarbes.
Dans les Hautes-Pyrénées.
Voilà. Et grâce à Sandrine, nous avons pu avoir deux réunions en visioconférence et on continue à travailler et à échanger sur les sujets donc, qui nous préoccupent.
Voilà. Convergence des luttes.
En effet.
Voilà. Et on envisage de les recevoir là pour creuser vraiment cette thématique et sur nos échanges de pratiques. Voilà, donc en perspective, c'est une organisation pour pouvoir les recevoir dans les semaines ou les mois à venir. Voilà.
Alors, le mot convergence des luttes, c'est très politique. C'est pas le but. Ce qu'on vient d'exprimer tous, parce que chacun a ses opinions, je veux dire, mais ce qu'on vient d'exprimer tous, c'est que le conseil départemental est très engagé auprès des usagers, des allocataires. Et donc là, c'est pour ça que ces groupes ressources fonctionnent et que le groupe stigmatisation aussi, etc. Le but, c'est vraiment d'essayer de trouver des améliorations, de faire avancer les choses, en fait. Donc il n'y a pas d'autre volonté que la bonne volonté de chacun. À participer et apporter ses petites compétences chacun.
Mais je suis contente que vous répondiez ça parce que c'est un peu de la provoque de ma part de dire ça et donc je suis contente que ça réagisse.
Eh bien, ça n'a pas manqué de réagir. Il y avait une autre chose, il faudrait que peut-être Sandrine ou Alain, on parle, ou Ingrid, qu'on parle de tous les invités qu'on a pu recevoir, oui. Qui viennent d'horizons très divers.
Voilà, donc je m'étais dit qu'on pourrait en effet leur faire un petit bonjour, hein, parce qu'on les remercie d'être venus à notre émission de radio. Donc en 2018, on a eu Nathalie Bertrand, directrice de l'association Émergence, qui récapitule la halte de jour, et puis d'autres structures sur Tours. Émile Salva, docteur en sociologie, qui est venu aussi. Jacques Périssalco, écrivain de jeux littéraires Anagramme, qui est venu aussi présenter ses ouvrages. Séverine Busson-Houssineau de l'École de la Deuxième Chance et l'association PIS de Montbazon. On a Isabelle L'Huillier, coiffeuse solidaire à Amboise, qui est venue aussi. Valérie Bonneau du Crépitouraine, c'est un groupe d'employeurs sur Saint-Avertin. David, donc chanteur ambulant, bénéficiaire du RSA, qui était venu en juillet. On a eu un témoignage de Jérôme d'Amboise, bénéficiaire du RSA autour de la santé. On a fait une spéciale marketon donc, avec comme invité Julien Ratron, donc conseiller socio-professionnel donc au conseil départemental, et Aurélie Chemel, directrice de PIS, qui était venue parler de la journée nationale du 18 octobre du marketon. On a eu aussi Bénédicte Longat et Claire Carré, bénévoles à TD Carmonde, pour parler de la journée du refus de la misère du 17 octobre. Le garage solidaire auto donc à Jouy-les-Tours, avec comme invité Guillaume Florençon, directeur de l'association. Et puis on a eu aussi Lorraine Pré, responsable de la mission locale de Tours-Nord, et Denis Maheu, conseiller mission locale, donc en décembre. Puis en janvier, on a eu Cécile Seyman du XAPA, donc qui est venue nous parler des addictions avec un de ses collègues infirmiers psychiatriques. En février, on a eu Pôle emploi de Chinon et l'association Touraine-Ouest Emploi, donc Marie Casgrain et Carole Lamy de Pôle emploi Chinon, et Mélissa Albert de Job Touraine. Donc ça, c'est le site en effet du conseil départemental de recherche d'emploi, jobtouraine.fr, où en effet tous les demandeurs d'emploi peuvent s'inscrire pour trouver un emploi, et on a une connexion directe en fait avec les employeurs du local, hein, de l'Indre-et-Loire exclusivement. Voilà. Donc on peut se connecter sur jobtouraine.fr sans souci. Et donc hier, notre dernier invité, Monsieur Vincent Louot, conseiller départemental chargé de l'insertion. Et donc notre prochain invité, donc ça sera le prochain émission qui aura lieu le 9 avril avec Julien Keruel, donc directeur du Centre social pluriel, et Wilfried Leroy qui est président de l'association plurielle au Sanitas.
Voilà, 9 avril à 15h sur béton.
Alors je rebondis sur cette liste d'invités. Peut-être qu'on peut dire aussi aux auditeurs que être allocataire du RSA, c'est un sport de haut niveau. Parce qu'il y a on est contraint de tous les côtés, parce que quand on se doute bien que quand on vit avec si peu d'argent, ça a des implications évidemment sur l'alimentation. On ne peut pas acheter tout ce qu'on veut, il faut qu'on calcule. La moindre dépense, il faut qu'elle soit inclue dans ce budget. La santé, c'est pareil, il faut faire des choix constamment, il faut réfléchir. Et peut-être qu'on peut rappeler que c'est épuisant, tout ça.
Tout à fait.
Je ne sais pas si vous voulez en dire quelque chose.
Oui, c'est épuisant, mais bon, c'est vrai qu'il faut que les gens... Il y a des associations qui sont là pour nous aider, et puis il y a des associations aussi qui nous proposent des petits travaux en coup de courte durée, voire des fois plus longues, comme Tour Emploi-Service, ou comme Amboise Fondette, Touraine... ça y est, j'ai pu retrouver pourtant. Donc, je n'ai pas retrouvé le nom.
Oui, alors évidemment, c'est une allocation de survie, en fait, hein, parce qu'effectivement, c'est très très réduit. Et ça pose le problème de l'emploi d'une manière générale, le changement de paradigme qu'on voit se développer dans nos sociétés, où les CDI sont maintenant minoritaires, 84% des contrats de travail sont des CDD, voire des contrats à durée déterminée de très courte durée. On va vers le tâcheronnage, on va vers donc l'ubérisation, etc. Ça pose vraiment des questions fondamentales hein, sur notre société.
Et puis en plus, ce qui participe de la stigmatisation qu'on combat, c'est qu'on entend souvent montrer du doigt les gens qui trichent un petit peu, qui font un peu de blague ou qui font quelques activités pour améliorer les fins de mois ou tout simplement pour arriver jusqu'à la fin du mois. C'est des questions de survie. Alors les donneurs de leçons, on ne va pas les nommer, c'est pas la peine de leur faire de la pub, ils en ont déjà assez comme ça. Moi je les mets au défi de vivre avec 600 euros par mois sans avoir un petit quelque chose de temps en temps qui permet de faire un dernier plein de course pour arriver jusqu'au 30. Et ça c'est du fric, ils le volent à personne.
Et 600 euros, c'est un couple ou c'est quand on est seul avec un enfant? Donc c'est pour deux, 600 euros. Et donc, comme tout le monde le dit, on ne vit pas, on survit. Mais après, voilà, Guylaine qui fait souvent les idées fausses, faut savoir que non, quand on est au RSA, on n'est pas sans payer un loyer, parce que ça revient toujours. L'APL, en fait, couvre notre loyer, pas du tout. On paye le DF, on paye le gaz, on paye nos abonnements, aux opérateurs téléphoniques, on paye notre assurance habitation, ceux qui ont une voiture payent l'assurance de la voiture. Faut arrêter de dire oui on a 600 euros mais en même temps c'est 600 euros d'argent de poche. Non, c'est pas vrai, parce qu'on mange, quand on a des enfants, il y a des choses à payer des fois pour l'école, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'idées fausses comme ça qui viennent en disant que voilà, nos allocations c'est pour sortir. D'ailleurs, les sorties on ne les fait pas.
Voilà. On en a vu repasser une de ces idées fausses qui nous poursuit depuis le début et qu'on voit réapparaître périodiquement, malgré les explications qu'on peut donner, chiffrées et tout. C'est cette vieille rengaine qui prétend, et ça c'est d'autant plus crapuleux que c'est relayé par des hommes politiques, des gens en théorie ce qu'ils disent, qui sont au courant de ces choses-là et qui continuent à nous rebattre les oreilles avec cette vieille rengaine disant que, on gagne mieux sa vie à rien foutre qu'en travaillant. Et bien évidemment, c'est faux. Bien évidemment, on a tous bagarré contre ça. On a fait des émissions de radio. Il y a eu des articles de presse un petit peu partout, chiffrés, pour prouver que c'était une aberration. Et donc, maintenant, quand on voit des gens vauquier, parce qu'on l'a dans le nez depuis quelque temps, et que c'est là qu'il est particulièrement agaçant, mais il n'est pas le seul. Il y a tout un tas de gens qui matraquent ça dans les médias dits mainstream depuis des années. Et ça marche, et c'est comme ça que ça marche, la stigmatisation. Parce qu'après, tout ça s'est relayé par les gens qui reçoivent ça comme une parole vraie, qui n'est pas contestable. Parce que c'est ce monsieur à la télé qui l'a dit, donc lui, il sait ce qu'il dit.
Alors, on voit qu'il y a aussi une stratégie politique qui vise à stigmatiser une partie de la population de façon à faire passer l'idée que, voilà, il y a des pauvres, mais ils sont fainéants, etc. En réalité, la situation est beaucoup plus, plus, grave que ça, parce que parmi les pauvres, il y a beaucoup de travailleurs pauvres, parce que chacun travaille un petit peu par-ci, par-là, etc. Et ce que l'on voit, en fait, c'est qu'il y a une paupérisation générale des salariés, des personnes qui sont aussi de plus en plus en situation de précarité. Et ça, ça touche un nombre considérable de personnes. Et là, en fait, c'est là qu'il faut se poser les vraies questions, c'est-à-dire le fait de stigmatiser une partie de la population en disant, voilà, ils sont bénéficiaires de ceci ou cela, alors que c'est la solidarité nationale qui s'exerce, etc., pour les citoyens de notre pays, etc. Donc là, il y a vraiment des questions de fond à reposer, à reformuler.
C'est l'idée de à qui ça profite, voilà, en fait, oui. De stigmatiser une partie de la population.
Devine.
Bah oui, c'est-à-dire que ça donne l'impression qu'en fait le marché du travail est merveilleux, que tout se passe bien, qu'il suffirait d'avoir de la bonne volonté pour trouver forcément un travail.
Il suffit de traverser la rue.
Il suffit de traverser la rue, voilà. Et en réalité, les choses sont bien différentes.
Mais je voudrais vous préciser, c'est que quand on a un petit travail, par exemple, ce mois-ci, on va travailler, ou le trimestre, on va travailler. Le trimestre d'après, le RSA va baisser parce qu'on a travaillé. Donc, en plus de ça, on aura moins d'argent pour vivre. Et c'est ce qu'on aussi on voudrait, ça serait logique, que ça serait à déclarer mois par mois et non par trimestre. Parce que le trimestre d'après, ben, si on ne travaille pas, ben, on n'a presque rien. Et le RSA ne va pas redémarrer tout de suite. Voilà, donc je trouve que c'est important aussi de le dire.
Voilà, et puis qu'il y ait un plancher où on puisse cumuler un revenu avec le RSA sans que ce soit déduit. Parce que de toute façon, si on a 500 balles le RSA et qu'on travaille pour 500 balles, on va avoir 1000 balles au bout du mois. On est encore en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est du fric, on le vole à personne.
Alors, juste pour préciser, hein, par rapport au revenu, quand on travaille et qu'on est bénéficiaire du RSA, on le signale à la CAF et c'est vrai qu'autant que faire se peut, il faut le signaler au plus vite. Parce que la CAF recalcule vos droits et du coup, elle peut en effet... Il y a un système de neutralisation de ressources qui peut s'appliquer de façon exceptionnelle. Donc ça, c'est les conseillers de la CAF qui peuvent le mettre en place. Et donc, en effet, il faut le préciser au plus vite parce qu'en effet, la CAF recalcule vos droits et du coup, peut réactiver les droits pour le mois suivant. Si en effet c'est un contrat sur du très court terme, par exemple une mission intérim de une semaine ou 15 jours, en effet il va y avoir un recalcul et ça va se faire assez vite si on prévient la CAF tout de suite et qu'on n'attend pas la DTR à la date butoir. Donc je rappelle, DTR, déclaration trimestrielle de ressources, il faut le faire en ligne sur le site caf.fr. Voilà.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'on aimerait aussi, ce pourquoi on participe au groupe ressources et au groupe stigmatisation, c'est qu'il y a un certain nombre, il faudrait faire évoluer un certain nombre de procédures administratives qui sont complexes, qui sont mal connues. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient bénéficier d'aide, on a un taux de non-recours à ces aides qui est important. Les gens sont mal informés, les gens ne comprennent pas le fonctionnement de l'administration, donc qui est complexe, hein, il faut le reconnaître. Et il y a peut-être un certain nombre de choses justement à faire évoluer dans ce sens, de façon à ce que les gens ne se sentent pas poursuivis par l'administration, mais comprennent qu'ils font partie d'un ensemble solidaire dans lequel, en fait, toutes ces aides ou toutes les démarches qu'ils exercent vont leur permettre de rebondir, d'aller de l'avant, de faire des projets. Enfin, c'est un peu le but.
Alors, on peut penser aussi à une situation dans l'idée de rechercher du travail. Par exemple, une personne allocataire du RSA qui n'a pas de permis de conduire. C'est un énorme frein pour trouver du travail. Or, comme on est locataire du RSA, comment on fait pour financer un permis de conduire ? Et si on n'a pas de permis de conduire, comment on fait pour trouver du travail ?
Alors ça, c'est mon cas. Je n'ai pas le permis. Mais alors, si on a une promesse d'embauche d'un métier qui permet, en fait, où il faudrait avoir le permis, il y a des possibilités de se faire financer, notamment par Pôle emploi.
Voilà, donc voilà. Pour tous les emplois, en effet, qui sont plutôt... Alors, soit excentrés parce qu'on travaille dans une zone industrielle, par exemple, en horaire en 3-8, ou alors les métiers, par exemple, dans l'aide à domicile, comme Marie-Thérèse, où il y a beaucoup de déplacements, où des fois, en effet, quand on travaille pour une association d'aide à domicile, des fois, elle nous fait parcourir toute la ville de Tours, voire on fait travailler à Tours Nord, à Tours Sud, à Tours Centre, à Chambray. Donc, si on se déplace en transport en commun, on peut pas, en effet... On passe plus de temps dans les transports en commun que en temps de présence chez les personnes. Donc là, ça peut justifier en effet un financement de permis de conduire. Alors en effet, Pôle emploi peut intervenir sur l'aide au permis de conduire. Nous, au niveau du conseil départemental, on peut aussi intervenir, mais plus particulièrement pour les bénéficiaires du RSA, Donc en effet, tous les référents qui accompagnent les bénéficiaires du RSA connaissent la procédure, le formulaire à remplir, les critères plus particuliers. Alors je rappelle pour les référents, donc en fait le conseil départemental d'Indre-et-Loire a deux types de suivi, donc ça peut trois types de suivi, même ça peut être les assistantes sociales de secteur qui suivent les bénéficiaires du RSA dans le cadre de leur accompagnement, donc pour tout ce qui est problématique sociale liée à la santé, au logement, à l'illettrisme, à chercher un mode de garde pour son enfant, des choses comme ça. Ça peut être aussi, donc on est conventionné, le conseil départemental d'Indre-et-Loire est conventionné avec un certain nombre de structures, donc au niveau, donc c'est une prestation de service qui est conventionnée avec des associations et des organismes de formation qui suivent des bénéficiaires du RSA. Donc ces personnes-là, elles les suivent à titre individuel. Et donc en effet, chaque territoire d'intervention a des référents avec qui il doit travailler. Donc ces personnes, ces référents qui sont identifiés comme tels, ont des contacts régulièrement avec les équipes des services insertion du conseil départemental pour faire un point, un relais. Et en effet, ils sont tout à fait au courant de toutes les aides à disposition pour en effet aider les personnes dans leur quotidien, dans leur projet professionnel ou pour leur recherche d'emploi. Et puis après, on a un troisième type d'accompagnement qui est avec Pôle emploi. Donc en effet, on a une convention de signer avec Pôle emploi. Et là, on a aussi des accompagnements plus intensifs qu'on appelle les accompagnements, l'accompagnement global, où en effet, on a des conseillers dédiés pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Donc sur l'aglo, par exemple, on a deux conseillers dédiés sur Tour-Ronsard, un conseiller dédié sur Saint-Cyr, on en a sur le pôle emploi des Deux-Lions, etc. Sur tout le département, on a des conventions signées avec tous les pôles emploi du département, mais en effet, il y a des aides dédiées pour le permis de conduire et autres, bien sûr. Alors moi, je voudrais juste rebondir, excusez-moi d'anticiper peut-être les questions, mais par rapport à l'atelier donc auquel on va participer pour un certain nombre d'entre nous vendredi, donc aux Assises du journalisme, puisqu'en effet, l'atelier, il est nommé Culture du cœur, la marginalité dans les médias. Donc il aura lieu de 11h à 12h30 en salle 1. Donc en effet, on va avoir comme invité Serge Gasselin, donc, qui est lui-même bénéficiaire du RSA, qui va témoigner de son quotidien. On aura Philippe Marquez, donc animateur social qui est aussi sur l'éducation aux médias. Bruno Morel, donc directeur général d'Emmaüs. Émilie Salva, donc docteur en sociologie. Et puis donc c'est Édouard Zambeau, donc qui va animer donc l'atelier, donc journaliste dans les quartiers populaires et questions sociales, réalisateur aussi du documentaire Un jour ça ira, qui sera présent. Donc nous, c'est vrai que ça a fait un peu débat entre nous parce que c'était pas le titre qu'on avait choisi, voilà. Culture du cœur est en effet à l'initiative du portage de cet atelier en lien avec les Assises du journalisme, mais ne souhaitait pas être aussi présent au titre de l'affiche. Et puis le titre, la marginalité dans les médias, comme disait Alain très bien tout à l'heure, en effet, les personnes dans cette situation ne se sentent pas marginalisées, ou alors s'ils se le sentent, justement, c'est un débat qu'on a eu entre nous aussi, avec des patients du XAPA, s'ils le se sentent, c'est aussi à nous de travailler autour de cette thématique-là pour qu'ils ne se le sentent plus marginalisés. Parce que, en effet, comme on disait, il y a une dame qui nous le disait très bien, moi, ça ne me dérange pas qu'on me cible comme personne marginale. On dit, mais non, mais la marginalité, c'est quand même péjoratif. Et Guylaine, qui est spécialiste en histoire, pourra nous préciser. Si vous voulez bien peut-être en toucher deux mots par rapport à la thématique de la marginalité.
Oui, parce que ce qui est dans la marge, évidemment, c'est ce qui est en dehors, ce qui est au bord de la société. Nous sommes tous des citoyens et il faut surtout partir de là pour pouvoir avancer, aussi bien dans le domaine social que dans le domaine professionnel, enfin à tout niveau. Et voilà, le fait qu'une personne comme cette dame qui nous disait « Ah ben moi, finalement, ben j'accepte », non, il ne faut pas accepter. Il faut justement se redresser et se dire « Ben non, moi aussi, j'existe, je fais partie de la société et je peux avancer dans ma vie, faire quelque chose, participer avec d'autres. C'est le but. »
Mais en plus, peut-être que quelqu'un qui intègre le fait qu'il est, soi-disant, une personne de moindre valeur qu'une autre, ne se révolte pas. Ne conteste pas.
Voilà. C'est péjoratif, c'est quelqu'un qui va accepter une condition, une étiquette qu'on lui pose sur le dos et qui va elle-même se dévaloriser. C'est très négatif.
Et ça veut dire que des gens qui ont si peu d'estime d'eux-mêmes, finalement, on en fait ce qu'on veut.
Oui, bah, oui. C'est là qu'on voit historiquement, en fin de compte, comment les choses évoluent. On voit dans l'Antiquité, l'Antiquité fonctionnait avec l'esclavage. Hein. Pendant le Moyen-Âge, il y avait le servage. Donc, et des catégories de personnes. Les bonnes personnes, les personnes de qualité, qui sont les personnes de la noblesse, de la haute bourgeoisie, etc. Et puis le tiers-État, le bas peuple. Donc, si on a réformé les gueux, voilà. Si on a essayé de réformer les choses, c'est pour que les personnes intègrent à part entière la société et puissent s'y développer, s'y épanouir. Et donc, voilà, il faut vraiment lutter contre ces stigmatisations et cette manière de mettre les gens à la marge ou de les dévaloriser ou d'en faire des sous-catégories de personnes. C'est tout un travail.
Et puis, en plus, les mots ont un sens quand même, surtout quand on est ou qu'on se dit journaliste. Et nous, on avait choisi un titre qui parlait des gens qui sont invisibles ou qu'on a rendus invisibles. Et on parlait des journalistes à la rencontre de l'autre, parlait de l'altérité. Et on se retrouve avec un titre qui s'appelle « La marginalité dans les médias », qui est un titre qui est complètement putassier. C'est pas du journalisme, ça, c'est du voici.
Oui, parce que à ce moment-là, la personne qui lit le titre et qui va peut-être venir par curiosité, s'attend à ce qu'on parle de gens qui sont vraiment marginaux, complètement en dehors de la vie. Et c'est... Il faut lutter contre ces... Alors les gros titres, souvent des journaux, voilà, vont dans ce sens-là. Il faut que ce soit un petit peu... Que ça fasse le buzz. Il faut que ce soit quelque chose de marquant. Mais si c'est faux, si c'est... Ça fait du tort à tout le monde.
Et puis même quand c'est vrai, qu'est-ce qu'on décide de mettre en avant? C'est ça. Un exemple, dans nos discussions, on a évoqué un article récent d'un quotidien local que je ne nommerai pas, à propos d'un accident qui a eu lieu à Tournord, où un homme est mort, écrasé par le tram.
Oui, c'est ça.
Et le gros titre, c'était le retard du tram. Et puis en sous-titre, en dessous, en beaucoup plus petit, effectivement, quelqu'un est mort. Mais c'est un personnage, on ne sait pas, mais il avait un nom, ce type, il avait une vie, il avait des gens qui l'aimaient. Et ce qui est le plus important pour le gras de papier qu'a pondu cette saloperie, c'est le retard du tram.
Le retard a été...
Ce type-là, il a une conscience?
Oui, c'était le service tram a été interrompu à cause d'eux.
Voilà.
C'est quand même vertigineux qu'on laisse passer des trucs pareils. Je ne sais pas où elle est la déontologie, là.
Et alors, excusez-moi. Et du coup, par rapport à notre atelier, c'est vrai, ce qui était aussi remarqué dans les débats qu'on a pu avoir pour préparer cet atelier, c'est aussi la difficulté de se forger une opinion à travers les médias. Parce qu'en effet, la question, c'était qu'on ait bien un lien avec les assises du journalisme en termes de médias. Comment on va aller à la rencontre, en effet, des journalistes? Parce que là, notre titre initial, c'était « Invisible ou stigmatiser les médias à la rencontre de l'autre ». C'était vraiment ça notre idée, parce qu'en effet, comment on peut rentrer en contact, voilà, et puis que le journalisme, en effet, soit plus un journalisme de terrain, et que voilà, parce que les débats qu'on a eu entre nous, c'est en effet normalement la mission première du journalisme, c'est aussi d'aider la population à se forger une opinion sur tel ou tel sujet, à avoir des vraies valeurs, voilà. Et donc, en effet, en fonction des médias qu'on va pouvoir consulter, parce que voilà, on parlait aussi de l'éducation aux médias, hein. C'est-à-dire qu'en fonction de où on vient, on n'est pas égaux face à la culture, face à l'accès aux médias. Et c'est un problème parce qu'en effet, il y a des personnes qui vont être plus comme le citoyen lambda qui va allumer sa télé, qui va aller regarder BFM pour pas la citer, ou d'autres. Et du coup, c'est hypnotisant, comme nous disaient ces personnes, parce qu'en effet, on voit toujours les mêmes images en boucle, en boucle, en boucle. Et ça peut déformer la pensée même, on en est là.
C'est fait pour ça.
Hein. Exactement. Le journalisme, c'est le quatrième pouvoir et que l'influence sur les opinions est très importante. Donc c'est d'ailleurs pas pour rien que les groupes de presse sont dirigés par des grands manias.
Marchands d'armes.
Par exemple. Enfin, en tous les cas, qui veulent influencer l'opinion de façon à conserver le pouvoir et à orienter.
Et à faire du fric.
Et à faire de l'argent.
L'alternative, c'est les médias non commerciaux, comme les radios associatives.
Par exemple, oui, parce que là, il y a une parole libre qui informe. Et puis, l'autre piste, ce sont les journalistes d'investigation, ceux qui prennent du temps pour étudier des sujets précis et qui rendent compte des enquêtes qu'ils ont menées.
Et qui parfois le paye très très cher. Faut voir ce qu'un type comme Denis Robert, par exemple, a pu subir pendant 10 ans à la suite de ses bouquins, de ses révélations d'abord sur l'affaire Clearstream, pardon, et sur tout ce qui s'en est suivi. Mais effectivement, il y a encore, heureusement, une presse qui est libre parce qu'elle n'est pas soumise aux puissances d'argent, qu'elle n'a pas de compte à rendre à des gens qui peuvent leur dire du jour au lendemain « Attendez, vous publiez pas ce truc-là parce que sinon je vous sucre le budget publicitaire ». Bon, il y a des journaux comme le Canard Enchaîné depuis près d'un siècle maintenant. Il y a Mediapart. Il y a des journaux un peu plus à la marge qui ont une histoire assez particulière comme Charlie et tout ce qui va autour, ou Ciné Mensuel, qui n'ont pas de publicité. Et ça, c'est un des critères de base parce que l'argent, il est à la base de tout. Nous, justement, on est sur Radio Béton parce que Radio Béton fait partie de cette génération qui est directement issue des radios libres, ce qu'on appelait les radios libres à l'époque. Et c'est bien défini, c'est-à-dire que c'est des radios qui sont, un, associatives, deux, qui font pas ou très peu de publicité, dont en tout cas le budget ne dépend pas de la publicité. Et en plus, pour Radio Béton, elle est issue de ce qu'on a appelé avant l'autorisation des radios et avant les radios pirates, la contre-presse des années post-70, qui était dans de la presse écrite, des fanzines, des journaux, dont vous avez un exemple en exposition pendant ces assises ici à MAM. Et que vous pourrez aller consulter. Il y avait un journal qui s'appelait Le Petit Rouge de Touraine, qui a paru de 1975 à 1978-79, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus très bien, ça fait loin. Et à sa disparition, la quasi-totalité de l'équipe a basculé dans la création d'une radio qui est l'ancêtre de Radio Béton, qui a été historiquement la première radio, qui était une radio pirate en complète, c'était pas autorisé du tout à l'époque, qui s'appelait Radio Transistour. Et donc Transistour a splitté à la suite d'un conflit interne, on va pas s'attarder là-dessus parce que ça intéresse plus personne 30 ans après. Et donc c'est comme ça qu'est né Radio Béton. Donc il y a une filiation qui est pas uniquement une filiation d'affinité musicale, mais aussi une radio qui a quelque chose à dire. Et ça, c'est fondamental. Et il reste malheureusement assez peu de radios qui sont dans cette mouvance-là en France, parce que la quasi-totalité du paysage a été absorbée par des grands groupes qui sont des entreprises commerciales. Moi, je ne leur jette pas la pierre. Le but de toute entreprise, c'est de gagner du fric. C'est pour n'en perdre, ça me paraît à peu près normal. Mais qu'on ne mélange pas ça avec l'information, parce que c'est trop, c'est dangereux, parce que ça provoque des dérives, parce que c'est comme ça. Il y a des exemples qui fourmillent, moi il y en a des tonnes qui me reviennent comme ça. Et sur lesquels les journalistes ne se sont jamais remis en question. Alors peut-être qu'on peut lancer un appel du haut de notre petite émission, dans notre coin, aux journalistes qui sont là. Les mecs, commencez, ou les filles, commencez à vous remettre en question, vous. Et dans ce cas-là, vous aurez beaucoup plus de poids pour après essayer d'écarter un peu les mâchoires du frein, des freins qu'on vous oppose. Mais ça, on est peut-être déjà dans l'utopie.
On sait qu'il existe des presses d'opinion qui dérivent directement de pensées politiques à droite ou à gauche. Donc on connaît ces magazines ou ces journaux.
Mais d'ailleurs, on remercie Vincent Louault d'avoir fait de la publicité pour l'Humanité hier sur les antennes de Radio Béton.
Tu l'as un peu forcé.
Il est provocateur, mais alors. Enfin, toujours est-il que... mais il y a quand même une déontologie, il y a quand même un fond sur lequel de compétences de travail sur lesquelles les citoyens comptent en ce qui concerne quand ils s'adressent, quand ils lisent des articles de journaux, quand ils regardent la télévision, etc. Alors la télévision, c'est pire que tout, parce que là, les enjeux économiques sont vraiment très forts et ça semble difficile.
À quoi c'est dû, alors, à vos avis, des fois la difficulté que peuvent avoir certains médias à se remettre en question, comme vous le disiez? Qu'est-ce qui coince, en fait? Pourquoi c'est si dur?
Mais parce qu'ils ont été élevés dans ce moule-là.
Oui, c'est
Yannick,
ce que
tutorial,
on nous expliquait aussi, parce que c'est vrai qu'on avait du mal à comprendre le pourquoi il y a aussi peu de recul et souvent ils transmettent un peu des idées préconçues avec beaucoup d'a priori. Et en effet, Édouard Zambo nous a très bien expliqué la culture journalistique et en effet les origines sociales hein, aussi des journalistes, souvent issus plutôt d'un milieu aisé et pas populaire. Ouvriers, et du coup, en effet, ils ont du mal à aller sur le terrain, faire des vraies enquêtes, parce que ça demande du temps aussi, de l'investigation. Et en effet, Édouard Zambo, avec son frère, dont j'ai plus le prénom, mais donc ont réalisé deux films documentaires, et dont le dernier, Un jour, ça ira. En effet, ils présentent bien hein, la précarité sur le terrain, en visitant en effet des centres d'hébergement, en allant vraiment au contact des vrais publics, quoi, voilà. Et ça demande du temps, de l'investigation et d'être vraiment en raccord avec ses propres valeurs aussi, je pense.
Voilà, une petite parenthèse et un coup de pub, parce qu'en ce moment, c'est un truc qui fait un tabac et qui est effectivement dans la droite ligne. Tout ça, c'est le film de François Ruffin, Je veux du soleil, sur les gilets jaunes. Alors, si vous avez la possibilité d'être dans un endroit où ce film-là il passe, allez-y, allez le voir. Au même titre que son précédent film, Merci patron, c'est quelque chose qui est. Voilà, ça apporte quelque chose. On en sort enrichi. Et ça, c'est bien. C'est ce que je voudrais moi dans tous les magazines. Mais là on est complètement dans l'utopie. Là.
Ouais, on parlait du travail d'investigation. Moi, ça me fait rebondir sur quelque chose qui nous avait bien stigmatisé. C'est M6 avec son truc La rue des Allocs qui se passait dans le Nord.
Ah, ouais.
Et voilà. Alors là, on s'en prenait vraiment, pour dire vulgairement, plein la gueule, quoi. Là, c'était vraiment.
Ça, c'est ignoble. Je sais pas quelle idée leur a passé dans la tête, mais c'est la caricature du journalisme le plus putassier qui soit. Et c'est une honte pour toute la profession, c'est une honte pour les techniciens qui se sont prêtés à ça, c'est une honte pour toute l'équipe, ils auraient dû déclencher une grève.
Enfin, on sait bien qu'il y a toujours aussi une presse bas...
De caniveaux.
De caniveaux, de basse extraction. Et bon, le but, c'est de faire de l'argent avec des gros titres et puis sans réflexion.
Du temps de cerveau disponible.
Donc on peut dire ça aussi aux journalistes qui nous écouteraient, n'ayez pas peur, venez voir sur le terrain, vous n'allez pas vous faire taper dessus.
Oui, on ne mord pas.
Maintenant, je pense que justement, les assises du journalisme, c'est un bon support, pour confronter les regards, avoir des débats contradictoires autour de ça, et qu'ils n'hésitent pas en effet à venir à notre atelier vendredi matin de 11h à 12h30 pour qu'on puisse en effet échanger au sein de la salle, parce que c'est ça le but, hein, c'est d'échanger et de faire avancer les choses. On n'est pas nous sur un regard fermé, ou au contraire, on est sur une ouverture, une main tendue, en effet, où on a envie que les choses avancent et que les regards changent, voilà. Parce que en effet, en travers de ce groupe de lutte contre la stigmatisation et par le biais de l'émission Salon de Pauvres, on essaie de travailler justement les changements de regard, les ouvertures d'esprit, et entre autres nos élus départementaux ont bien entendu le message hein, depuis 2 ans et presque 2 ans et 3 mois qu'on tarabusque sur ce sujet de la stigmatisation. Ils font vraiment des efforts sur le fait de ne pas stigmatiser les personnes, d'ouvrir. En effet, par exemple, pour le site Job to Rennes qui a été créé, ils ont bien entendu le message qu'il ne fallait pas stigmatiser. Donc, ce n'est pas un site dédié qu'aux allocataires du RSA, mais c'est un site pour tous les demandeurs d'emploi. Contrairement au 41 où il y a ce site, cette plateforme avait été expérimentée avec Job 41 où le département du 41 a souhaité le consacrer qu'à des demandeurs, qu'à des allocataires du RSA avec une obligation de s'inscrire, je le précise. Dans le 37, ce n'est pas le cas parce que nous, on a tarabusqué aussi pour que ça ne soit pas le cas. Ils ont bien entendu le message dès le départ en disant que oui, en effet, on ouvre à tous les demandeurs d'emploi. Il n'y a pas d'obligation de s'inscrire sur ce site. Donc pour toutes les personnes qui ne voudraient pas s'inscrire, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'obligation. Qui veut s'inscrire ? Voilà. Donc ça, c'est bien une directive départementale. On n'oblige personne à s'inscrire. Ça reste vraiment du libre arbitre de la personne. Et ça, je pense que c'est important que la personne soit encore en capacité de dire oui ou non, je m'inscris sans obligation du département. Tout ça parce qu'on touche le RSA. Voilà. Voilà.
Alors on peut signaler, s'il y a des gens de M6, vous venez vendredi et vous demandez Ingrid, elle a deux mots à vous dire.
Elle ne sera pas là, Ingrid.
Elle ne sera même pas là, donc c'est pas la peine de vous déplacer.
Non mais toi tu seras là, alors je compte sur toi.
Elle représente Ingrid. Voilà. C'est son porte-parole.
Eh bien merci beaucoup à vous au Salon de Pauvres. Peut-être qu'on peut rappeler quand et où on peut écouter votre émission et vous lire aussi.
Absolument.
Alors donc on a notre émission tous les deuxièmes mardis de chaque mois, donc de 15h à 16h sur les ondes de Radio Béton, donc 93.6 pardon. Et donc on peut nous retrouver aussi sur la chaîne YouTube. Ingrid.
Alors on a une chaîne YouTube Salon de Pauvres, on a un compte Twitter Salon de Pauvres, on a une adresse mail salondepauvres@gmail.com et un groupe Facebook bénéficiaires du RSA, des gens comme les autres.
Et bientôt un blog.
Et bientôt un blog.
Voilà, avis aux auditeurs. Allez consulter tout ça, ça vaut vraiment le coup.
Youpi. Merci à Radio Campus.
Merci à Radio Campus. Oui. Et puis j'ai retrouvé le nom de ce que j'ai. Dites-nous. C'était Touraine. Touraine, ça y est.
Elle l'a oublié.
Le fou rire.
Ah. Le suspense reste à son comble.
Elle a perdu le nom. Marie-Thérèse est repartie. Donc la prochaine émission, ce sera donc le mardi 9 avril, donc sur les ondes de Radio Béton, de 15h à 16h. Et donc Radio Béton 93.6, on le rappelle. Voilà.
Merci à tous. Au revoir.
Merci à Radio Campus.
Et merci à vous.